Donc, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, les 10 premiers versets. Je vous les lis de façon à ce que vous ayez en tête l'ensemble, et puis après on y reviendra verset par verset. Donc, voici ce qu'écrit l'apôtre à la communauté de Corinthe qu'il a fondée autrefois. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce ne fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est le genre de passage qui a pu aussi justifier une sorte de mortification chrétienne, un dolorisme, qui pouvait laisser penser, notamment avec le verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages et calamités, que plus on endurait de souffrances, de douleurs, d'outrages, plus on se conformait non seulement au Christ, mais à la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Dans une certaine mesure, ça pouvait donner l'impression que pour bien vivre notre foi chrétienne, le meilleur était encore d'en passer par ce chemin de la croix. Alors, on va reprendre les choses verset par verset, en ayant en tête notre trajectoire, qui est une trajectoire autour de la prière, et puis en profiter quand même pour voir ce que ce texte très connu, qu'on utilise quand même assez souvent, peut nous donner à entendre de l'Évangile, disons, ou de la vie chrétienne. Je crois que c'est plutôt la vie chrétienne. Alors, donc, pourquoi faut-il se glorifier ? Parce que c'est ce que font les faux apôtres. Les faux apôtres sont de super apôtres, en fait. C'est-à-dire qu'ils déploient des trésors de puissance. Les commentateurs disent qu'ils sont notamment de bons rhéteurs, donc ils ont les effets de manche comme les pasteurs le dimanche matin, un talent oratoire qui manifestement contrastait avec Paul qui, en dépit de ses lettres qui sont quand même assez complexes sur le plan littéraire, contrairement à Paul, qui lui était manifestement sur quelque chose de plus sobre, de plus simple et sans un tas de choses extraordinaires. Paul va plutôt avoir une sorte de prédication dépouillée des faits, aussi bien dans la forme que dans le fond, puisque finalement, vous savez, il va dire « Moi, je ne veux prêcher que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc c'est vraiment le dépouillement. Et puis dans l'épître aux Philippiens, il dira à quel point le Christ, c'est l'exemple même du dépouillement, celui qui se vide de lui-même. Donc, à la fois, il va s'opposer à l'idée de se glorifier, et en disant que ce n'est pas bon, c'est ce que dit la traduction Louis II, le texte grec est plus intéressant. Le texte grec, avec le verbe sumferein, c'est sun, ensemble, et phéro, porter. Et en fait, ce que dit le texte grec, c'est que se glorifier, ça ne porte pas ensemble. Vous voyez, glorifier, ça ne permet pas de former une communauté. Ça ne permet pas de tisser les liens de ce qu'on pourrait aussi appeler une synagogue. Un synagogue, c'est un peu construit comme sum phéro. Il y a le sun au départ, ensemble, avec. Et synagogue, c'est aller ensemble. Et là, sum phéro, c'est porter ensemble. Et donc, ça se place du point de vue des apôtres, des prédicateurs. Prêcher la gloire, prêcher la glorification, c'est au fond plutôt diviser que de rassembler. Et c'est la raison pour laquelle Paul ne va pas aller sur ce registre-là.
James, oui. À propos de division, il y a un texte où Paul dit « J'apprends que l'un se dit de Paul, je suis de Paul, l'autre de
Silas ou de Barnabé. »
C'est la division. Oui. Et prêche contre la division.
Alors, c'est-à-dire qu'au lieu de prêcher le Christ, ils vont prêcher leur propre personne, voilà, ce qui est un problème. Là, c'est plutôt l'idée que si on prêche la puissance, voire la surpuissance, en fait, on n'est pas dans ce qu'on avait vu avec le pharisien et le péager, c'est-à-dire dans cette humilité qui permet aux gens de s'accrocher les uns aux autres. Hein, c'est-à-dire qu'en prêchant la puissance, on prêche la violence, et la violence, elle ne laisse pas de place à l'autre. On va le voir au fil de ce texte. Bon, tout en disant cela, Paul dit « Je ne le fais pas alors que je pourrais ». Et de façon très, très maligne, finalement, il va dire qu'il a tous les talents qu'ont les autres, mais que lui a cette lucidité qui le retient d'utiliser ces arguments. Donc, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Alors, les révélations, c'est les fameuses apocalypses. Hein, si vous regardez le texte grec, c'est Apocalypse 6. Donc, l'apocalypse, les apocalypses du Seigneur. Apocalypse, hein, il faut se souvenir que ça veut dire révéler. Et alors, donc là, c'est assez amusant parce qu'il va dire qu'il connaît un homme en Christ, et cet homme, c'est lui. En fait, ce qu'il va raconter, c'est sa propre conversion. C'est son chemin de Damas, notamment. Et donc, je connais un homme en Christ, et c'est là la différence, notamment par rapport à ce que vous disiez sur les divisions, c'est que pour lui, l'autorité, c'est Christ, et ce n'est pas ses capacités propres. C'est pas ses pouvoirs personnels qui font son talent.
Ça va à l'encontre de la volonté de puissance, en fait. Ce que dit Paul, c'est que c'est pas par volonté de puissance.
Exactement. Et comme il le dit dès le départ, en fait, c'est pas pour se glorifier. Ça va être tout l'inverse. Donc, je connais un homme qui fut, il y a 14 ans, donc deux fois un sabbat d'année, ravi jusqu'au troisième ciel. Alors, on peut se demander ce qu'est ce troisième ciel, parce que c'est pas un motif courant. Ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que le troisième ciel est intéressant à cause du 3. Et le 3, on va en parler à nouveau dans ce texte à la fin, quand Paul va dire que par trois fois, il a demandé qu'on lui enlève son écharpe. Pour ce texte, je vous mets juste cette corrélation, et on va voir après comment ça fonctionne. Et puis, les trois fois, il faut se dire qu'on les trouve assez régulièrement dans les expériences spirituelles en relation avec le Christ. C'est aussi bien Pierre qui va renier trois fois Jésus, que Jésus qui va ensuite demander trois fois à Pierre s'il l'aime. Et puis, il y a comme cela quelques expériences où on insiste trois fois. Et trois, c'est classiquement le nombre de Dieu dans le rapport avec les hommes. C'est-à-dire que dans la construction classique, un, c'est la terre, deux, c'est l'homme, et trois, c'est Dieu. Vous voyez, c'est dans les strates classiques.
Ils ont entendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est aussi trois.
C'est aussi trois, mais c'est parce que justement le trois peut être un symbole numérique facile pour le divin. Et par exemple, si vous prenez le Notre Père, vous verrez qu'il est construit en sept propositions. Trois pour le divin et quatre pour les hommes, c'est-à-dire l'homme et la femme, c'est-à-dire l'intégralité de... Ça peut être une explication, ça peut être une façon de présenter les choses. C'est un anti-sonnet en quelque sorte, enfin, c'est un sonnet. Bien, continuons avec notre texte. Donc il fut ravi, il fut transporté en fait, un harpazo, il fut transporté jusqu'au troisième ciel. Et là, on a un détail, un des rares détails sur la question de la mystique dans la Bible. La mystique dans la Bible, on en fait peu état parce que il y a toujours une méfiance vis-à-vis du surnaturel. Et là, Paul dit que son expérience mystique, c'est-à-dire être au ciel, ce symbole d'être en Dieu, il n'est pas capable de dire si ce fut avec son corps, autrement dit si ce fut un transport physique, ou si ce fut sans son corps, c'est-à-dire un transport, on pourrait dire, mental. Est-ce que le voyage se fait à l'extérieur ou à l'intérieur? Au fond, il ne peut pas en décider, ce qui est une forme d'humilité. Ce qui est aussi une façon de dire que lui qui se pose comme une autorité en matière religieuse n'est pas capable de décider ce qu'est une mystique orthodoxe. Pourquoi ? Parce que justement, on le verra un peu plus loin au verset 4 quand il dira finalement il y a des choses inexprimables. C'est que ça dépasse les catégories du sensible, c'est-à-dire que ça va au-delà des sens, parce que ça nous prend au-delà de ce que nous connaissons. C'est la rencontre avec l'inconnu, c'est la rencontre avec autre chose que ce que nous possédons déjà. Et on ne peut dire que ce que l'on maîtrise finalement, ou alors on le balbutie. Et là, il balbutie, parce que justement, il a été au bénéfice de quelque chose qui le dépasse largement. Donc c'est ça la transcendance aussi. C'est la transcendance, on ne peut que l'intuitionner. Hein. Et le théologien Friedrich Schleiermacher disait que finalement, ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, notre sentiment religieux ne nous permet qu'une seule chose, c'est d'intuitionner l'univers. Intuitionner l'univers, c'est prendre conscience qu'il y a par-delà ce que nous sommes, physiquement, d'un point de vue sensible, avec nos sens, il y a voilà, un autre chose à découvrir, à éprouver. Le monde est infiniment plus grand que ce que je peux me représenter. Intuitionner, c'est l'au-delà de la représentation mentale. On voit qu'il y a quelque chose par-delà ce que l'on maîtrise. Et je sais que cet homme, donc il reprend sa formule sur l'incertitude concernant la dimension corporelle, je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis. Alors là, il intègre une nouvelle expression, le paradis. En grec, c'est paradaison. Et donc, vous voyez, c'est juste une translittération. Et donc, tout de suite, on va se dire, le paradis, c'est le paradis, en fait, par opposition à l'enfer. Bon. Ce terme grec est employé dès le début de la Bible, dans la traduction grecque de la Bible, traduction des Septante, pour traduire le jardin. En fait, c'est le mot qui désigne le jardin. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. C'est le paradis qui est à l'est, en fait. C'est le jardin de l'est, le jardin d'Éden. Donc c'est et alors, le paradis, à chaque fois, va être le jardin qui est... un des lieux identifiés comme possible pour la rencontre entre l'humain et le divin. Donc il fut enlevé dans le paradis, donc il fut transporté dans ce jardin qui désigne le moment où l'homme est vraiment lui-même, puisqu'il est au contact de Dieu. C'est aussi bien le jardin d'Éden que le jardin de Gethsémané. Dans l'évangile de Marc, il y a un épisode tout à fait troublant au moment où Jésus est arrêté. Il y a quelqu'un qui est dans l'entourage de Jésus, est-ce que c'était un de ses disciples ou pas? On dit que c'est un jeune homme, il va pour être saisi, et en fait il échappe en abandonnant son drap, disons, son vêtement. Et donc c'est l'épisode du jeune homme nu, qui évidemment, dans un jardin, fait référence au premier homme nu, à savoir Adam. Et donc il y a là, vous voyez, un parallèle pour reprendre cette scène primitive, la rejouer pour dire... Je pourrais plagier à l'envers Raphaël Picon, le paradis n'est pas perdu en fait. Voilà. On va l'habiter de nouveau, mais d'une nouvelle manière. On va le réinvestir. Et tout à l'heure, on verra qu'il sera question d'habiter dans le texte grec. Donc, il fut enlevé au paradis, il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, il entend en fait des paroles, des rhémata qui sont aretha. Et aretha, c'est en fait trop sacré. L'idée, c'est que c'est trop sacré pour pouvoir en dire quelque chose. Donc c'est vraiment au-delà de ce que nous pouvons appréhender. Si on le disait d'une façon un peu plus académique, c'est au-delà de l'épistémologie. C'est-à-dire que ce n'est pas dans notre champ de connaissance. Donc il va falloir l'explorer. Mais comme ça, en première intention, on ne comprend pas bien ce dont il s'agit. Il n'est pas possible à l'homme de pouvoir en sortir une parole.
Dans des textes mystiques du XIVe siècle, on parle de ces femmes dans des monastères qui, étant complètement prises par la perception qu'elles ont du Christ, qu'elles voient et qu'elles entendent, commencent à faire le lala.
Ah oui.
Alors, je me demande si le lala, c'est pas ça, c'est pas l'alessae.
Peut-être, oui, parce que lalao, c'est parler.
Elle peut plus rien exprimer, oui.
Ah oui. Oui, peut-être qu'effectivement, ça s'appuie sur... sur cette expression-là, de nos jours, on dirait babiller. Ouais. C'est-à-dire une prière inexpressive. Il y a du son qui sort sans que ça formule des syllabes. Donc, lala. Très bien, je le note. Donc, ensuite... Le verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Donc, Paul parle de lui-même comme de deux personnes, finalement. C'est la bonne schizophrénie mystique. Schizophrénie, pas au sens pathologique, mais tout simplement au sens clinique. C'est-à-dire que Paul dira, vous savez, à une autre occasion, toute la distance qu'il y a entre celui que nous sommes et celui que nous voudrions être. C'est ça le péché. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Donc, il y a un peu deux hommes qui bataillent en nous. C'est ce que dira Luther, avec le vieil homme et l'homme neuf, dont le baptême illustre le mécanisme de transition. Et Paul, ici, vous voyez, très sobrement, évoque le combat entre nous et nous. Jacob qui lutte contre ce personnage mystérieux dans le livre de la Genèse. On dit toujours qu'il lutte contre un ange de l'Éternel. On ne dit pas que c'est un ange de l'Éternel. On dit qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va lutter contre Jacob pendant toute une nuit. Est-ce que Jacob ne lutte pas contre lui-même? Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'effet miroir? D'autant qu'on dit qu'il se roule dans la poussière, qui évoque aussi la création de l'homme dans le deuxième récit de la Genèse. Hein, et qu'il y a en quelque sorte ce besoin d'arracher quelque chose de nous qui n'est pas humain, et puis ensuite de pouvoir trouver son vrai visage. Et à l'issue du combat de Jacob avec lui-même, peut-être, il change de nom, il change d'identité. Jacob est mort, Israël naît. Et ensuite, il va pouvoir aller à la rencontre d'Ésaü, ils vont s'embrasser, il y aura une sorte de réconciliation. Peut-être parce que Jacob ne pouvait pas se réconcilier avec son frère, seul Israël était capable de pouvoir tisser une nouvelle relation avec Ésaü. Donc, cette idée de mu, en fait, hein, ou de métamorphose. Et ici, on a donc Paul qui est entre deux. Et les infirmités, en fait, c'est utile de le reprendre dans le texte grec, c'est le dernier mot du verset 5, asthenéiais, donc ça, on l'entend dans asthénie. Et l'asthénie, c'est tout simplement la non-force. Donc, vous voyez, infirmité, tout de suite, on pense à quelqu'un qui manquerait une jambe, qui serait aveugle, etc. Là, c'est la non-force. Hein, c'est quelqu'un qui est non-puissant, qui ne peut pas exercer de violence sur autrui. Ce qui change quand même un peu la donne. C'est plus psychologique, spirituel que physique. On en trouve comme cela dans les évangiles, hein, des gens qui sont asthéniques. Par exemple, il y a cette personne qui a 37 ans, qui est près de la piscine, là, à Jérusalem. Et elle sait qu'il suffirait qu'elle se plonge dans la piscine pour qu'elle reprenne force. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui passe devant, au moment où ça bouillonne. Et alors, on est dans un cercle vicieux, parce qu'en fait, pour pouvoir y aller, il faudrait qu'elle ait cette force morale perso, mais forcément, c'est ce qui lui manque, donc elle ne peut pas. Et Jésus va arriver et va ressusciter, en fait, le désir chez cette personne qui va, du coup, pouvoir se lever. Et, en fait, tu n'auras même pas besoin du pain, du bain.
J'aime, c'est en fait l'inhibition par rapport à l'action.
Alors, il y a une inhibition, mais ce n'est pas par rapport à l'action, c'est plutôt par rapport à l'idée qu'on se fait de soi-même. Là, c'est une question d'identité, en fait. Et Paul est en train de dire quelle est l'identité chrétienne. Et l'identité chrétienne, elle se fonde sur une non-force, mais qui va être assumée par la puissance qui arrive à la fin. Donc, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Donc, voilà, Paul qui fait valoir ses lettres de noblesse, ses qualités. Il pourrait se prévaloir de la même force ou de la même superbe que les super apôtres, mais je m'en abstiens précisément. Je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc il donne la raison pour laquelle il ne le fait pas. C'est pour éviter de créer des fans. C'est pour... Paul évite son fan club. C'est pour éviter qu'il fasse écran au message qu'il entend servir. Et ça rejoint ce que vous disiez. Si finalement on estime que c'est l'apôtre, le prêtre, le pasteur, le rabbin qui est splendide, magnifique, intelligent, brillant, tout ça, etc., on va s'attacher à lui au lieu de s'attacher à la prédication, au lieu de s'attacher au message, au lieu de s'attacher au fait qu'il essaie d'établir le contact entre chacun et Dieu, et de s'effacer. Et c'est ça tout l'intérêt, notamment du protestantisme, c'est d'effacer les intermédiaires. Et donc Paul efface les intermédiaires et s'efface lui-même, en ne se vantant pas de ses mérites. Et on a un autre exemple fameux, c'est bien sûr Jean-Baptiste. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Et avec cette phrase d'humilité, je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Et donc, là aussi, c'est le motif de la kénose, hein, le fait de se vider de soi pour éviter de prendre la place. si on voulait le dire de manière pédagogique, non pas aux enfants, mais aux parents et aux grands-parents, il faudrait rappeler que les arbrisseaux, pour pousser, ont besoin de lumière. Et quand il y a de grands arbres autour, ils empêchent la croissance des arbrisseaux. Et donc, j'avais un collègue à Arles qui n'y allait pas toujours en rondeur avec ses paroissiens et qui avait eu l'occasion, à quelques obsèques, de dire que c'était une bonne chose que cet ancêtre meure parce que ça faisait de la place dans la forêt pour que les plus jeunes pousses puissent prendre leur envol. Et que dans une certaine mesure, parfois certains empêchent l'épanouissement. La présence empêche l'épanouissement. Donc, Paul veille à justement ne pas encombrer, on pourrait dire ne pas saturer l'imaginaire, l'horizon des Corinthiens pour qu'ils puissent prendre toute leur ampleur. Donc il s'abstient. Et ça rejoint aussi une part de la tradition juive qui parle du retrait de Dieu, le Tzimtzum. La tradition juive, une partie de la tradition juive dit que après avoir créé le monde, Dieu se retire justement, et c'est en se retirant qu'il crée le monde d'ailleurs, pour laisser la place à l'univers et puis pour laisser la place à l'homme de pouvoir grandir. Et ce retrait de Dieu, qui a donc aussi une implication éthique, parce qu'en se retirant, Dieu laisse à l'homme la liberté, donc la responsabilité de mener les affaires du monde, dit bien cette auto-limitation du divin pour donner un espace vital à l'humain. Ça, c'est la perspective juive. Dans une perspective, celle de la théologie du process, peut-être celle de Wilfred Monod aussi, Dieu n'est pas celui qui se retire pour laisser la liberté à l'homme de mener sa vie. Dieu est plutôt ce qui encourage l'homme à occuper le terrain qui est vide ou qui est inorganisé. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de se retirer, Dieu est plutôt là pour attirer. Il y a une sorte d'opposition entre un Dieu qui se retire dans la tradition juive et dans la théologie du process, un Dieu qui attire. Il n'y a pas besoin de choisir votre camp, ceci dit. On peut se retirer et attirer aussi. Hein. Enfin bon. Je voudrais juste. Oui.
C'est Shabbat, c'est ça, c'est de se retirer.
Alors, le Shabbat désigne en quelque sorte le retrait de Dieu, mais ce serait plutôt la cessation d'activité. Le terme employé dans la tradition, c'est le Tzimtzum. Tzum. Du coup, c'est pas du tout la même racine, mais le Shabbat dit aussi un espace laissé libre, une sorte de jachère. Et la jachère qui permet de pouvoir cultiver à nouveau. Putain, oui, temps où on apprenait la jachère à l'école en disant qu'en France on pratiquait la jachère.
Monsieur, j'avais une question à propos de votre prédication. Vous disiez, votre dernière prédication, que la sincérité n'est pas la foi chrétienne. Et je me demande quand Paul, là je suis critique, mais peut-être trop, dit que si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Comment faire la différence entre la sincérité et la vérité ?
Eh bien, quand il dit qu'il ne dit pas la vérité, il est sincère. Si on veut coordonner les deux. Mais Paul, là, ne fait pas œuvre de sincérité. Paul fait œuvre de réorientation. C'est-à-dire qu'il va dire où est le centre de gravité. Où est-ce que ça joue en christianisme? Il dit, c'est pas dans la gloriole que ça se joue. C'est pas dans les super-pouvoirs, c'est pas dans les titres de noblesse que ça se joue. C'est au contraire dans l'espace laissé à Dieu. Puisque alors, Ce n'est plus nous qui nous exposons avec nos seules forces, mais on va, comme on va le voir ensuite, laisser à Dieu le soin de pouvoir donner toute sa mesure. Juste, je vous rends attentif au fait que la construction du verset 7 est un peu décalée par rapport à ce qu'elle est en grec. En principe, le « à cause de l'excellence de ses révélations », c'est la même phrase que la fin du verset 6. Donc, en principe, c'est « mais je m'abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi à cause de l'excellence de ses révélations. » Point. Et puis ensuite, la phrase continue. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été donné une écharpe dans la chair. » Je ne sais pas pourquoi Segond a bougé ce morceau de phrase, mais... Darby aussi. Voilà. Souvent, les deux se suivent, de toute façon. Voilà. Mais on voit bien, la fin du verset 6, c'est ex emu, puis ensuite, kai te hyperbole ton apocalypseon. Bien. Alors, ensuite, l'histoire de l'écharde. Alors, ça, c'est un sujet de réflexion et de méditation un peu à l'infini. Alors, tout d'abord, on peut s'intéresser au terme grec. Klopsos. Skolpos, je veux dire. Skolops, j'y arrive. Skolops. Alors, Skolops, si on prend les traductions usuelles dans le grec classique, c'est le pieu, c'est le pâle. Le pâle qui permet d'empaler. Et par extension, on passe du pieu à la palissade. Donc, évidemment, quand vous mettez ça dans la chair... Il n'en reste pas grand-chose de la chair. Donc, si on reste à cette idée-là, il me semble qu'il y a quelque chose de praticable dans l'interprétation. Comme on a lu tout le texte, on voit un peu comment ça continue. Il n'est pas impossible que Paul utilise ce terme-là aussi dans cette acception de pieux, de pâle, en pensant au fait que Jésus a été crucifié. Et il me semble qu'on pourrait comprendre le fait que Paul va dire qu'il subit finalement une sorte de destin semblable à celui de Jésus. Il me semble que l'objectif de Paul va être de dire que nous sommes tous baptisés dans la croix du Christ. Il le dira ailleurs dans une de ses lettres. Et que sa théologie de la croix consiste à dire que la puissance de Dieu s'exprime justement à travers la croix. Et donc, la croix peut ensuite se décliner de différentes manières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire simplement être crucifié au sens littéral du terme. Aujourd'hui, on le comprend, il arrive par exemple que... il y a le Benfica qui s'est fait crucifier par le PSG il n'y a pas très longtemps. C'était en match amical. On a cette idée que on est dépossédé de nous-mêmes. Voilà, on se fait malmener au point qu'il n'y a plus aucune réaction possible. Donc on se fait crucifier. Et ici, peut-être que Paul, à travers ce morceau de bois, évoque la croix et du coup va parler de la puissance de Dieu dans la faiblesse de la croix. Ça, c'est une possibilité. Autrement, il y a effectivement une acception du mot qui est plutôt du côté de l'épine, du buisson, de l'écharde éventuellement. Et c'est d'ailleurs cela que l'on trouve dans les textes bibliques, puisque le mot skolops est utilisé 4 fois en fait dans la Bible. 3 fois dans l'Ancien Testament pour traduire des mots hébreux qui désignent justement l'écharde ou l'épine du buisson. Et alors, notamment 2 fois dans le livre des Nombres, je ne sais pas si ça vous intéresse, je vous donne les références, en Nombre 33, verset 55, et puis dans le livre d'Osée, au chapitre 2, verset 8, c'est ce mot-là qui est tout à fait savoureux, c'est le souk. En fait, l'épine, c'est le souk. D'ailleurs, c'est pas chouk, c'est souk. Voilà, souk. Bon, je pense qu'il n'y a pas de rapport direct avec le souk actuel. Mais Bon. Et puis, il y a dans Ézéchiel, au chapitre 28, verset 24. Alors là, c'est un autre mot hébreu, c'est siloun. C'est siloun. Et je vais vous lire ce passage d'Ézéchiel, parce que je me demande si Paul ne l'a pas en tête en écrivant justement ce passage. Parce qu'il y a un jeu sur la glorification et sur l'épine. Donc, Ézéchiel chapitre 28, moi, je vais vous lire à partir du verset 20, c'est la prophétie contre Sidon. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils d'homme, tourne ta face vers Sidon ». Donc, c'est une prophétie qui s'adresse à Ézéchiel, c'est Ézéchiel le fils d'homme, et donc il doit aller vers Sidon, et prophétise contre elle, tu diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, Sidon ». Je serai glorifié au milieu de toi. Donc, vous voyez, il y a le thème de la glorification. En grec, c'est pas le même mot, mais il ne faut pas oublier qu'Ézéchiel a été écrit en hébreu. Je serai glorifié au milieu de toi, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel quand j'accomplirai des jugements contre elle. Je serai sanctifié au milieu d'elle. J'y enverrai la peste, et je ferai couler le sang dans ses rues. Les vaincus tomberont au milieu d'elle par une épée dirigée contre elle de toutes parts, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Ainsi, elle ne sera plus pour la maison d'Israël une écharde douloureuse. Donc c'est là qu'on a notre scolops, une écharde douloureuse, un chardon déchirant parmi tous ceux d'alentour qui la méprisent, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Le fait qu'il y a cette tension entre la gloire et puis les choses douloureuses, notamment les chardes, d'une part, et puis l'histoire de Paul me fait dire qu'il y a peut-être un contact, et tu ne seras plus finalement un problème pour mon peuple. Est-ce que c'est pas l'histoire de Paul ? Qui a commencé en tant que pharisien par persécuter les chrétiens. Hein, il était là au moment de la lapidation d'Étienne, et puis son chemin de Damas, c'est bien tout le problème de « Pourquoi me persécutes-tu » Et peut-être que justement, ce motif de l'écharde est repris chez Paul pour désigner la conscience qu'il a d'avoir été un sérieux sujet problématique pour Israël.
Un remords, en quelque sorte.
Une prise de conscience. Le fait qu'il prenne conscience du caractère nuisible de sa vie. Et ce serait là une sorte de trace, de symptôme, de cicatrice de ce passé. Il a évoqué le passé à travers, il y a 14 ans, le fait qu'il a été transporté au troisième ciel. Mais peut-être que là, il y a la mention de l'autre passé. Et on a bien, à nouveau, les deux pôles, finalement. On a Saul et Paul, finalement. Et peut-être qu'il joue là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le vieil homme, Saul, persécuteur de chrétiens, et injuste finalement. Et puis, pétri d'orgueil, parce qu'il était convaincu de la justesse de sa mission. Il était convaincu de sa doctrine, et il a tué au nom de cela. Et ça, c'est l'orgueil absolu. Et puis, il y a Paul. Paul qui, du coup, va faire preuve d'humilité, parce qu'il sait de quoi il a été capable. Et il sait de quoi la religion est capable. Et l'écharde dans la chair est peut-être justement à la fois l'image classique de l'écharde qui perce le ballon de baudruche, quoi, qui fait dégonfler l'orgueil. Mais peut-être qu'en rapport avec Sidon, avec la prophétie d'Ézéchiel, ce moment où il y a une conversion de mauvais élève, on devient bon élève en quelque sorte, ou d'éléments perturbateurs de la classe, on devient un élément moteur. Donc, Paul va peut-être ici évoquer ce moment de mutation chez lui, sa nouvelle métamorphose. Et là, je pense qu'il y a peut-être les prémices de l'histoire de la prière, justement, dans la dynamique qu'elle provoque pour le croyant. Continuons ce texte. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Et ensuite, un ange de Satan, donc Angelos Satana, afin de m'empêcher, donc de m'enorgueillir, un ange de Satan. Donc un ange, c'est un messager. Hein, c'est quelqu'un qui est en relation avec. Et Satan. Satan, c'est le chatan hébreu, et donc c'est celui qui accuse. Si on essayait de faire une transposition rapide, on parlerait aujourd'hui quasiment du procureur. Le procureur, c'est celui qui prend en charge l'attaque, finalement. Le ministère public, le parquet, va s'efforcer de charger l'accusé. Et c'est la défense qui va faire l'autre... c'est l'avocat qui va défendre l'accusé. Donc ici, on a un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et vous voyez, Paul finalement dit qu'il a une action positive. Ici, le messager de Satan travaille pour Dieu. Alors, je dis action positive, peut-être que c'est une action neutre au bout du compte. Si on faisait la comptabilité de Satan, peut-être que nous aurions finalement une action neutre. Quand on a le Satan qui est dans le livre de Job, il fait des choses tout à fait désagréables à l'endroit de Job. Mais ce Satan-là, finalement, il n'est là que pour mettre en évidence une vérité beaucoup plus profonde. Je veux dire par là que le livre de Job est un conte qui met en scène des personnages qui n'ont pas forcément une existence historique, une existence personnalisée, mais qui sont là pour révéler des forces qui sont en action dans notre vie. Je veux dire par là que il nous arrive des pépins. Tous. Enfin, on peut l'espérer. Même les machines, il leur arrive des pépins, alors a fortiori nous. Bon, c'est ce qui fait notre qualité d'être vivant. Quand il ne nous arrive plus rien de fâcheux, c'est qu'il ne nous arrive plus rien du tout. Bon, on ne va pas non plus courir après les outrages, etc. Hein. Bon, je vous le dis. Mais la question que soulève le livre de Job, c'est que faisons-nous de notre malheur? Et c'est ce qui va se passer aussi avec l'apôtre Paul. Que faisons-nous de notre malheur? Première chose, que disons-nous de l'origine de notre malheur? À qui imputons-nous notre malheur? Et réfléchir à cela, c'est réfléchir à l'idée que nous nous faisons des mécanismes à l'œuvre dans notre vie. Autrement dit, si, comme le proposent les amis de Job, Job avait imputé son malheur à Dieu, cela signifie qu'il faudrait considérer que Dieu est source de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Cette idée que le scénario aurait été préparé par Dieu ou que Dieu ferait le scénario à la place et que nous ne serions que les marionnettes qui incarnent le scénario qui a été préparé pour chacun d'entre nous. Job va se révolter contre ses amis. Il va se révolter aussi contre Dieu, c'est-à-dire contre l'idée qu'il se fait de Dieu, en trouvant que le Dieu qu'il a en tête est injuste. Et au bout du compte, il va y avoir dans ce dialogue entre Dieu et lui une sorte de révélation pour Job qui est assez proche de la révélation que Paul fait ici, c'est-à-dire tous les aspects qui sont au-delà de notre connaissance, ce qui est de l'ordre de l'inexprimable. Dans le livre de Job, c'est « Étais-tu là quand il y a eu les fondations ? Étais-tu là quand il s'est passé ceci ? Es-tu allé jusqu'au bout de cela ?» etc. Et non. En fait, Paul prend conscience de sa finitude, comme Job prend conscience de sa finitude, et l'un et l'autre vont découvrir que Dieu est ce qui permet d'assumer cette finitude et les malheurs qui vont avec, d'en faire quelque chose, d'en faire histoire. Et d'ailleurs, je prêchais sur Job là au début du mois. L'histoire de Job, c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive à sortir du deuil, en fait. C'est-à-dire qui arrive à faire le deuil de son malheur. Qui ne reste pas enfermé dans l'horreur qu'il subit. Il ne reste pas victime, en fait. C'est-à-dire qu'il pardonne, au sens où il décharge la culpabilité qui n'est pas la sienne, et pardonnant, il cesse d'être victime, et donc il peut à nouveau être acteur de son histoire, avoir des enfants, avoir des biens, et peut-être même réussir mieux que ce qu'il avait réussi auparavant. J'avais pas dit pourquoi il a le double de biens matériels par rapport au début. On peut se dire, bon, il est récompensé. Comme il a perdu tous ses enfants, etc., à défaut de pouvoir les remplacer, il en a d'autres, mais pour les biens, du coup, il y a les intérêts qui vont avec. Non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est qu'au début, Job ne peut pas avoir plus que ce qu'il a parce qu'il est trop enfermé dans le ritualisme. Le texte dit au début qu'il vit sa spiritualité et pour éviter que ses enfants, qui ne sont peut-être pas aussi consciencieux que lui, n'aient pas de problème, il fait aussi les devoirs religieux à leur place. Et donc, Job ne vit pas simplement sa vie, il vit aussi la vie des autres. Et en vivant la vie des autres, on ne vit pas totalement sa vie, donc on ne peut pas aller au bout de ses capacités. En revanche, à la fin du livre de Job, il a pris conscience de ce qu'est la responsabilité, etc. Aussi des choses inutiles, le ritualisme qui nous préserverait du malheur. Et du coup, il peut être dans la louange. Et cette louange-là, cette reconnaissance, cette action de grâce, lui permet d'être, je dirais, plus productif avec un terme contemporain. Mais si on reprenait tout simplement Max Weber avec son éthique du protestantisme et l'esprit du capitalisme, dirait, au fond, Job a été libéré pour mener son existence de la meilleure façon qui soit. Il n'est plus encombré par la peur. Et du coup, il n'est plus entravé par tout un système de coercition, de devoirs religieux, de menaces qui l'empêchaient de faire son travail. Et Paul va être peut-être comme cela. Paul est libéré de ce qui le minait jusque-là, qui était l'impérieux devoir de chasser l'hétérodoxie et de traquer dans l'esprit des autres ce qu'il ne regardait pas très attentivement dans son propre esprit. Et au fond, en étant libéré de cette traque de l'hétérodoxie ou de l'hérésie, Paul est rendu à lui-même et peut donc donner toute sa mesure. Et c'est là, à mon avis, que la prière intervient. Mais il va en parler. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Alors en fait, Paul ne prie pas. Enfin, disons qu'il ne prie pas au sens où le terme grec, ce n'est pas le verbe prier au sens strict du terme. C'est le verbe parakaleo. Alors, parakaleo, ça, il faut le connaître. Pourtant, tout le reste, c'est plutôt pour le trivial poursuite. Autant parakaleo, ça vaut le coup parce qu'on le retrouve ailleurs. Alors, donc on a para et kaleo. Et kaleo, c'est appeler. Ek kaleo, c'est ce qui donne église, c'est être appelé hors d'eux. Et donc, para kaleo, c'est un mot important parce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, on parle du paraclet. Des fois, c'est traduit par le consolateur. Ben, le paraclet, c'est para kaleo, en fait. Et donc, quand Paul dit qu'il a prié, enfin, quand il, oui, ça, en fait, c'est, il a utilisé ce verbe. Et donc, c'est appeler, c'est demander la consolation, c'est demander l'affection, c'est demander, faire appel à l'avocat, en fait. Et par trois fois, donc, il dit qu'il a prié Dieu de l'éloigner de lui, hein, d'éloigner l'ange de Satan qui le souffletait, qui l'empêchait d'être orgueilleux. Paul a en fait demandé de pouvoir être orgueilleux. C'est ce qu'il a demandé, hein, au bout du compte. Quand on regarde la chaîne de causes et de conséquences, ce que Paul demande, c'est de pouvoir continuer à être orgueilleux, de pouvoir continuer à se vanter, de pouvoir continuer à être parfait selon les critères humains. Puisque selon les critères humains, une imperfection, c'est par exemple trop de rides, c'est lorsqu'il nous manque un doigt, c'est quand on a les dents trop jaunes, enfin bref, quand on ne correspond pas aux critères de, des photographes actuels, qu'il faut se faire photoshopper, quoi. Et si on suit la prière de Paul, c'est une prière de type psalmiste, c'est « on aimerait bien être tranquille ». On aimerait bien être dans le paradis au sens actuel du terme, c'est-à-dire dans un champ de coton avec du Mozart en fond sonore, selon les critères de Karl Barth, qui préférait Mozart à Bach. Moi, je sais qu'ici, tout le monde est pour Bach, alors c'est pour ça que je fais valoir un petit peu Mozart aussi. C'est Barth, hein, qui disait... dans les églises, on joue Bach, mais les anges, eux, écoutent Mozart. Je crois que c'est un truc dans ce genre-là, quoi. Bon. Donc, trois fois, peut-être que ça fait écho au troisième ciel, hein, du départ. Est-ce que... donc, j'ai dit « prière non exaucée ». Au sens où Paul, en fait, demande des choses qui n'arrivent pas. Il demande des choses qui ne sont pas faites. Trois fois, il a demandé que l'ange soit repoussé. Donc, ça signifie que Dieu n'a pas exaucé, il n'a pas accédé à sa demande. Mais au début du texte, on a appris que trois fois, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y a eu un accès au troisième ciel. Accès au premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Hypothèse. Est-ce que ça ne serait pas une forme de réponse à la prière de Paul? Donc, vous voyez, une sorte de décalage. Paul demande quelque chose, et il a une réponse qui n'est pas forcément une réponse qui colle exactement à sa demande, mais qui, une réponse qui va peut-être plus sur le besoin. Je reprends la phrase du philosophe Mick Jagger, qui, dans une de ses chansons, dit « On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on obtient ce dont on a besoin. » Et est-ce que ça ne serait pas cela qui est en jeu dans la prière?
Le désir aussi, le désir de... Parce qu'il faut distinguer entre le besoin, nous avons des besoins, et le désir qui est en fait, c'est Dieu qui nous le donne, qui nous donne ce désir.
Là, dans ce texte, je pense qu'il y a plutôt une correspondance entre le désir divin et le besoin, ça signifierait la même chose, et puis il y a... disons la volonté de l'homme qui serait le principe de plaisir, voilà. Et le désir, c'est plutôt ce que Dieu susciterait dans l'homme. Voilà. Et donc ici, on a peut-être l'idée que comme les psalmistes qui, de façon très très libre, disent à Dieu ce qu'elles ont, enfin ce qu'ils ont vraiment sur le cœur, y compris la haine, y compris l'angoisse, y compris le sentiment de dépression. Voilà. Paul dit que pour lui, l'orgueil, ça va bien, et qu'il n'a pas du tout envie de s'en passer. Moyennant quoi, la réponse divine n'est pas une satisfaction du plaisir qu'il veut avoir, mais une satisfaction de ce qui lui est nécessaire. Et donc, il y a une sorte de décalage entre la demande et la réponse, mais un décalage par le haut, c'est-à-dire que Paul reçoit plus que ce qu'il demandait. Il reçoit autre chose, mais il reçoit plus. Il m'a dit, la réponse de Dieu, c'est « Ma grâce te suffit ». Le verbe « archéo » au verset 9, qui est traduit par suffire, c'est aussi bien assister que satisfaire ou que suffire. Donc, on pourrait dire que c'est une grâce efficace. Vous voyez, ce n'est pas simplement le fait qu'il y aurait eu une gentille parole dite quelque part et qu'il faudrait s'en contenter. Non, c'est que ma grâce, c'est-à-dire le soin dont je suis capable, t'accompagne et va œuvrer pour toi. Donc, il faut voir que ma grâce te suffit, c'est plus actif que ce que la traduction nous donne à penser. C'est un verbe qui est dynamique. Hein, assister, satisfaire, il faut aussi penser à ça, pas simplement suffire.
Mais c'est dynamis tout de suite après. Dynamis.
Oui. La dynamis, c'est donc la puissance, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc là, on voit bien à quel point ce n'est pas du tout statique, ce n'est pas un état. Vous savez, c'est comme les béatitudes. On dit toujours « heureux les pauvres en esprit ». Sous-entendu, contentez-vous de cela. C'est intéressant de voir comment Chouraki a traduit « heureux », il a traduit par « en marche ». Il y a cette idée que le bonheur est dynamique. Le bonheur, ce n'est pas une fois qu'on a obtenu ce que l'on voulait. Le bonheur, c'est lorsque nous nous investissons pour nous réaliser, ou pour réaliser un projet, ou pour rendre le monde plus vivable. C'est quand nous sommes en situation de création. Donc effectivement, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et là, la faiblesse, c'est encore l'asthénie. Hein, c'est le même mot qui avait été traduit par infirmité un peu plus tôt. L'asthénie, on l'a au verset 5, on l'a au verset 9, et puis on l'a au verset 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Hein, c'est donc quand je suis asthénique, alors je suis dynatos, je suis dynamique. Hein, faut bien entendre ces correspondances-là, hein, sinon on passe à côté. C'est pas la force au sens du bodybuilding, c'est la dynamique, c'est la capacité à aller de l'avant. Je reviens en arrière. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors là, c'est un mot aussi très intéressant. C'est un verbe qui est sur la racine du telos. Et c'est pour ça que c'est traduit par accomplir, parce que le telos, c'est un peu l'objectif, la finalité, l'ultime. La téléologie, c'est l'étude de la fin. Enfin, l'eschatologie serait vraiment l'étude de la fin. La téléologie, c'est... quel est l'horizon vers lequel on a envie de se rendre. Le telos, c'est effectivement le désir, la volonté, mais orienté. C'est dans l'idée, effectivement, d'accomplissement, de finitude, on pourrait même dire de totalité, en quelque sorte.
Il y avait un livre de Lévinas, Emmanuel.
Totalité et infini.
Voilà.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc là, on a encore le jeu de mots sur asthénie et dynamis. Et on a le verbe « repose sur moi » qui est tout à fait intéressant. Donc, le « sur », il vient du préfixe « épi », comme « épiphanie », c'est ce qui brille au-dessus d'eux. Et puis, on a... ensuite, le mot qui donne skéné, en fait, c'est-à-dire le fait d'habiter, de camper, c'est ce qui donne la tente. Dans le début de l'évangile de Jean, on dit que Dieu a habité parmi nous, en fait, c'est Dieu a planté sa tente parmi nous. Et on le retrouve un peu dans la tradition juive, avec l'idée de la Shekina. Hein, la Shekina, c'est la présence de Dieu. Et quand on dit que Dieu a planté sa tente parmi les hommes, c'est Noël en fait. C'est la présence de Dieu, c'est Immanuel. Et donc, épiskéné, vous voyez, ça donne cette idée d'incarnation aussi. Ça donne un peu cette idée de prologue de l'évangile de Jean. Ça donne un peu cette idée de Noël. Ça donne un peu cette idée que nous sommes la crèche de Dieu. Et on a la fin là. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Alors je me plais, c'est pas le principe de plaisir, c'est pas l'esthétique. Là encore, je vous donne la racine grecque, hein, donc elle préfixe e, qui veut dire bon, bien, comme euangelion, nouvelle bonne, ou heureux. Et puis dokeo, qui veut dire habiter, demeurer. Et donc en fait, ce que dit le texte, ce que dit Paul, c'est qu'il arrive à bien vivre dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, etc. Autrement dit, il arrive à bien vivre dans sa condition humaine. Et ce que dit Paul, c'est que la prière, même quand elle n'est pas très orthodoxe et qu'elle consiste à dire « j'aimerais bien continuer à vivre selon mon orgueil » ou à rester un peu vaniteux, etc. Eh bien, la prière, c'est ce qui fait changer notre regard, c'est ce qui fait changer notre réalité et qui nous permet, en fait, de réinvestir notre condition, de réinvestir notre vie, de bien demeurer là où nous sommes. Et donc, c'est là qu'on voit que la prière n'est pas tant ce qui change ce qu'il y a autour de nous, que ce qui nous change de l'intérieur. Et c'est pour cela que le début est intéressant. Est-ce que c'était selon la chair ou pas selon la chair que j'ai transporté? Et non, peut-être que le voyage a vraiment été un voyage intérieur. J'ai revisité ma condition pour mieux l'habiter. Et du coup, le récit de création de Genèse 1, ça peut être aussi un récit de création interne. C'est-à-dire que j'ai distingué en moi les différents éléments, je leur ai donné une place, un sens, et du coup, je peux dire que c'est tov, c'est-à-dire que c'est vivable. Et peut-être que la prière, c'est ce qui peut rendre notre monde vivable en changeant notre regard sur l'environnement, en commençant par le changer sur nous-mêmes. Et quand il nous arrive un malheur, peut-être que la prière est justement ce qui permet d'évacuer les mauvaises compréhensions que nous avons de ce malheur, les mauvaises causes par exemple, quand on impute des causes à tort, et puis peut-être aussi de pouvoir reconsidérer de quelle manière une situation qui à première vue faible laisse de la place aux dynamiques de vie. Et c'est pour cela, à mon avis, que Paul disait au début, quand on est enfermé dans sa superbe, ça ne porte pas ensemble, ça ne fait pas communauté. C'est quand on est faible qu'il y a de la place pour que les autres mettent un peu pied chez nous, ou que les autres plongent un peu leurs racines en nous. Autrement dit, quand on est toujours dans le registre « non, tout va bien, pas de soucis, etc. », on ne donne aucune prise à la bienveillance de l'autre, par exemple. Hein, c'est-à-dire qu'on crée une sorte d'enceinte inaccessible. Et plus généralement, quand on donne l'impression de toujours tout maîtriser, eh bien, on ne laisse plus à l'autre le soin de nous prodiguer quelque agapé que ce soit. C'est-à-dire que finalement, on est enfermé dans notre gloriole. Et ce que dit Paul, c'est que à la condition de pouvoir laisser un peu de place à l'autre, eh bien, ce dont l'autre est capable peut donner plus d'ampleur à notre vie, finalement. Et donc la prière, c'est à la fois un moment de lucidité sur nous-mêmes et la possibilité de poser un nouveau regard sur ce qui nous entoure.